À l'occasion du salon d'édition indépendante Offprint 2023, DU réalise une série d'entretiens autour de l'édition contemporaine en partenariat avec le CNAP, Centre National des Arts Plastiques. Lionel Catlan, graphiste et photographe, autour du livre Grenoble, un modernisme olympique, publié par Building Books. Bonjour Lionel Catlan.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Ça va, merci.
Alors on va revenir un peu au début du projet, avant donc l'impression de ce livre cette année. C'est donc lors de ton DENSEP à partir de 2010 que tu commences un projet photographique dans la ville de Grenoble qui a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver en 1968 et c'est un projet que tu poursuis jusqu'en 2012-2013 il me semble. Donc, est-ce que tu peux nous raconter quel a été le point de départ de ton intérêt pour l'architecture de la ville de Grenoble ?
Oui. Du coup, je faisais un DNSEP, un master en design graphique à Valence, aux Beaux-Arts de Valence. Et à ce moment-là, je faisais beaucoup de photos aussi, parallèlement au design graphique, où je m'intéressais aux livres, et je m'intéressais du coup beaucoup aux livres de photos. Et au paysage aussi, dans la façon où moi je trouvais qu'il y avait une convergence qui se passait entre une construction, enfin si on prend la définition d'un paysage qui serait une construction du regard avant tout, je trouvais que c'était, ça convergeait aussi avec le travail de designer graphique où on est aussi dans des constructions de regard quand on compose des pages, quand on compose du texte et des images. Donc je m'intéressais à ça, au paysage beaucoup. Et à Grenoble, en fait, je m'intéressais du coup à l'architecture moderne aussi pour la façon dont elle est construite, où elle crée, où elle fait image en fait. C'est quand même aussi un travail d'image, l'architecture moderne. Et ce rapport-là m'intéressait et je voulais le questionner, le mettre un peu à l'épreuve. Et Grenoble, ça me semblait vraiment intéressant parce que c'est cette période de 68 où il y a eu les Jeux Olympiques. La ville a été complètement métamorphosée, on va dire, par cet événement qui était vraiment d'une ampleur plus grande que la ville. Enfin, disons ça. Voilà, donc ça, il y a eu énormément de métamorphoses. Et ce qui m'intriguait, c'était cette façon de, pendant 3 semaines de Jeux Olympiques, d'événements sportifs, on allait recréer une ville. Et de quelque chose qui va durer 3 semaines, ça va durer 30 ans, enfin plus, on part sur du pérenne. Donc comment un événement aussi bref peut avoir des conséquences après sur une ville, sur des vies, etc. Donc ça.
Mais au début aussi, dans ton diplôme, il y avait cette question des ruines et de la nostalgie que t'interrogeais.
Donc ça, c'était sur mon travail, oui, sur le paysage, c'était le rapport à. Oui, il y avait beaucoup ce rapport à la ruine, le rapport à la mélancolie, quelle influence ça peut avoir sur nous. J'ai commencé avec le parc de la Villeneuve, qui est un parc paysager qui est au plein cœur de la cité de la Villeneuve à Grenoble. Et ce parc m'intéressait particulièrement parce que c'est un parc remarquable en tant que parc paysager, donc il a une espèce de fonction si on se retrouve au milieu de ce parc, nous en tant que regardeurs, il y a d'un coup tout se met en place autour de nous, c'est-à-dire que les barres d'habitation sont construites de telle manière, enfin il y a une harmonie de construction qui fait qu'il y a disons que Grenoble est entouré de montagnes, plusieurs massifs autour, et si on se retrouve par exemple sur des petites buttes qui ont été prévues dans ce parc là de la Villeneuve, prévues par le paysagiste, par Michel Courajoux, si on se retrouve là, tout d'un coup tout s'organise et on voit un premier plan de barres d'habitation qui ne cache jamais le paysage environnant extérieur. Et ça m'intéressait sur voilà.
Donc quand tu fais, en tout cas quand tu fais ce projet photographique, t'as pas du tout du coup les JO 2024 en tête qui vont se dérouler à Paris. Et tu constates quand même qu'il y a des projets architecturaux qui naissent de cet événement, mais que c'est plutôt pour dire que la France, enfin en tout cas pour prouver que la France a un certain savoir-faire, ou en tout cas pour dire on sait faire ça, architecturalement parlant, sans que ça ait de lien avec l'événement éphémère qui a lieu à ce moment-là en 68.
Il fallait que ce soit une image de la France moderne, avec oui ce savoir-faire de construction, de... Enfin, moi, ce qui m'intéressait, c'était que ce soit en plus, enfin, vraiment un prétexte quasiment à construire et à faire du signe. Et donc, il y a par exemple ces tours de l'île verte qui sont des tours d'habitation. C'est des tours énormes qu'ils ont construits. À l'époque, c'était les plus hautes d'Europe, de tours d'habitation. Donc, ça n'a aucun rapport en fait avec quelconque épreuve olympique. Mais du coup, elles sont là dans le paysage. Et quand on prend en photo, quand ils ont pris en photo tout. Tous ces moments-là, bah elles sont là et elles font, voilà, elles font leur effet comme ils souhaitaient. En plus, bon, évidemment, en 68, bon, De Gaulle avait, enfin, il y avait un contexte politique où c'était important, enfin, c'est toujours important pour eux que la France paraisse, voilà. Donc, c'était plutôt ça.
Et si on en vient du coup à l'édition qui a été publiée cette année par Building Books. Donc c'est des photos qui datent de 2012 que tu as choisi de ne pas refaire parce que en fait ça avait pas enfin tu le dis toi-même les images qui sont imprimées à l'intérieur de ce livre sont datées donc sont presque dépassées parce qu'aujourd'hui quelqu'un qui va visiter Grenoble n'aura pas du tout cette perception là de la ville en tout cas celle qu'il va découvrir dans l'ouvrage que j'ai égaré d'ailleurs tu l'avais tout à l'heure dans les mains je sais pas où il est voilà et est-ce que tu peux nous parler justement de ce rapport au temps et au traitement des images ? Parce que les images dans le livre, en tout cas si on doit décrire pour les auditeurs, auditrices, c'est la première chose qu'on va regarder, en tout cas c'est la balade que tu proposes dans la ville de Grenoble.
Oui, du coup, pour la genèse du projet d'édition, on va dire, de ce projet, c'était avec, c'est surtout Jade Hussein qui est graphiste, qui est designer graphique du coup sur le projet. Et qui a vraiment porté, qui avait vraiment envie de l'éditer, ça lui tenait vraiment à cœur. Et avec Building Books, ça a pu se faire. Ils ont aimé le projet. Mais c'est vrai qu'il y a cette question de temporalité. Et du coup, on est dans une fausse temporalité, on va dire, parce que c'est vrai que les images datent déjà. Et se poser la question de savoir, quelle est la pertinence aujourd'hui. Sans se dire que c'est d'être à l'approche des Jeux Olympiques de Paris, parce que c'était pas toujours pas ça qui m'intéressait, mais c'était de. Alors je me suis dit, mais en fait, oui, il y a une valeur. Elles ont presque plus de valeur aujourd'hui ces images-là parce que elles sont dans un présent passé proche, où en fait, si on les regarde et si on connaît un peu Grenoble aujourd'hui, on va déjà pouvoir mesurer des choses. Qui était ce que je faisais moi quand j'ai fait ces photos, c'est-à-dire je mesurais déjà des choses d'évolution de la ville, mais moi c'était 50 ans après la fabrication d'à peu près tout ce que je prends en photo, 50-60 ans, et là c'est vrai qu'à 10 ans d'écart, je regarde mes photos, quand je vais à Grenoble ou quoi, je peux voir revoir toujours des mêmes choses, ça semble assez contemporain, mais il y a déjà... on peut voir, par exemple, dans le parc de la Villeneuve, je prends en photo un collège qui date des années 2000, mais même lui, enfin, il est déjà plus là parce qu'il a brûlé, donc il n'y a pas l'année dernière, je crois. des choses comme ça qui disparaissent assez vite. Et du coup, je trouve que ça a encore plus d'intérêt, en fait. Enfin, pas plus d'intérêt, mais ça a un intérêt de pouvoir... avoir ce marqueur de temps qui est déjà d'une dizaine d'années, mais qui, voilà.
Et à l'intérieur de la publication, il n'y a pas que ces photographies-là, tu les mêles à d'autres images qui ne sont pas les tiennes. Est-ce qu'il y a eu, de manière à ce qu'il y ait une harmonie aussi entre les images, un traitement colorimétrique ou graphique qui participe justement à cette harmonisation des images ? Et parce qu'on est presque confondu dans ce que sont les images d'archives et les images dont tu es auteur.
À l'origine du projet, je connaissais bien Grenoble déjà à la base, et j'avais envie avant de faire des photos, de redécouvrir un petit peu Grenoble par tout ce que je pouvais trouver dans des livres, toutes les images que je pouvais trouver. Alors c'était plutôt du coup des images d'époque qui m'intéressaient des années 60-70. Mais je voulais déjà en faire une, une perception par de l'iconographie que j'allais trouver et quelle était l'image déjà de Grenoble à ce moment-là, sans y aller. Et après j'allais sur place et là je faisais des photos, mais après on peut en reparler. Mais donc dans le livre, là, moi ce que j'avais envie, c'est qu'il y a un peu une confusion, c'est-à-dire qu'il y a des images, il y a autant des images d'archives que des images d'aujourd'hui. Parfois, des images se confondent parce qu'en fait, ça a pas si mal vieilli et du coup, on n'a pas l'impression que c'était une image d'il y a 50 ans. D'autres fois, on peut mesurer vraiment les écarts. Donc après, c'était tout ça qui m'intéressait justement. Donc moi, je le présente au même plan dans le livre. On le présente avec une certaine confusion où on peut voir un peu mesurer de soi-même un petit peu tout ce qui se passe. Voilà. Après,
sur la mise en page, en tout cas la proposition, ouais, de conception graphique, du fait que la première balade ce soit dans les images, donc ces images qui sont les tiennes et les autres. Et
ouais, c'était donc c'est une balade qui a une unité de lieu, on va dire, mais qui a pas une unité de temps qui est la même. Elle est sur plusieurs unités de temps, mais ça, c'est, il y a une confusion à cet endroit-là. Le texte, le livre, en fait, on l'a fait aussi avec Tony Com, qui a écrit un texte entre vue et mue, il l'a appelé, c'est un très beau titre. Moi, il y a ce livre qui m'a toujours plu, c'est le livre d'Italo Calvino sur les villes invisibles, et je me disais, mais qui ça va intéresser Grenoble, au final, si on fait un livre sur Grenoble? Et on se disait, mais ouais, on n'a qu'à traiter Grenoble comme une ville invisible, en fait, et qui serait une ville que pourrait raconter Italo Calvino, peut-être, ou enfin voilà, d'autres... d'une autre manière.
Mais en tout cas, la ville que tu présentes aujourd'hui, c'est une ville qui est un peu disparue finalement, parce que les bâtiments ont changé. Enfin, comme tu le disais, l'architecture a disparu aussi parfois, enfin, a brûlé.
Oui, enfin, c'est une ville qui évolue. Après, elle a toujours... puis en fait, la ville qu'on connaît aujourd'hui de Grenoble, c'est une ville qui est... C'est l'héritage de ce moment-là, donc elle est toujours là et on peut quand même sentir ça, mais... Moi, j'avais envie aussi de retrouver, d'essayer de voir, de percevoir les projets d'origine, quelles étaient les idées vraiment après des architectes au tout début du projet. Donc, c'était quand même une époque où les projets d'architecture étaient vraiment... Enfin, il y avait des choses très intéressantes et il y avait des choses assez utopiques dans la façon dont les bâtiments sont construits et sont dans l'espace public et comment, justement, l'habitant de la ville était traité ou était invité à user de la ville et user des bâtiments. Et ça, par exemple, en reprenant donc des photos, juste en me rebasant moi sur des photos donc de l'époque, on peut vraiment mesurer ces écarts-là de transformation du public au privé et des phénomènes plutôt de politique une évolution sociétale comme ça, mais par exemple sur de la sécurisation, on voit que l'espace public il est beaucoup transformé par des barrières, on peut pas s'approcher de bâtiments sur des risques, sans doute ils le vendent comme un risque de dégradation, etc. Mais on peut prendre des exemples où, les bâtiments, il y a surtout cet effet de bâtiments de béton brut par exemple, qui était beaucoup de l'époque et un peu brutaliste et qui était en fait vraiment fait travailler comme des sculptures, des sculptures en béton. Et on voit sur des photos des gens qui se baladent devant et qui profitent de ces bâtiments-là comme on peut profiter d'une sculpture. Et ces choses-là, aujourd'hui, la plupart du temps, sont cadenassées par des... Donc je décris par exemple sur le Palais des Sports, qui est dans un espace public, dans un parc, par exemple, il est encerclé aujourd'hui d'une espèce de barrière verte qui c'est toujours mieux qu'une barrière avec des barbelés. C'est très dense, on peut pas du tout y passer, donc c'est quand même plus joli qu'une barrière, mais ça a le même effet. Et donc c'est des espèces de stratégies de la ville qui sont intéressantes à voir aujourd'hui. Et voilà.
Et en plus il y a cette partie d'image sur le livre, et puis il y a le texte. Donc le texte, c'est ce qu'on va plutôt aborder dans un second temps. Enfin, et t'aurais très bien pu ne jamais avouer que ces images avaient été réalisées entre 2012-2013. 2013 d'une certaine manière. Enfin, parce que c'est vrai que quand on regarde les images sans être influencé par le texte, on a peut-être une certaine perception de la ville. Et puis quand on a l'indice sur le temps, en tout cas la temporalité des photos, ça peut-être que ça modifie aussi la perception. Et donc il y a deux formes de texte. Il y a le texte principal qui est plutôt sous la forme d'un récit en tout cas, et puis les légendes. Enfin, en tout cas, tu t'es servi des espaces des légendes pour intégrer des commentaires qui sont la plupart du temps des paroles rapportées.
Oui, voilà, ça c'est quelque chose que, enfin, à la base j'avais un texte, moi on réfléchissait à comment je pouvais moi commenter mes images et j'avais envie d'écrire un texte long, un peu comme ça, qui suivrait tout le livre. Et finalement on l'a fait plutôt donc sous cette forme de commentaire qui a intégré les légendes, donc ça arrive un peu comme un sous-titre, et un sous-titre à la lecture, et c'est vraiment secondaire aussi. On voulait du coup qu'on soit vraiment d'abord confronté aux images et qu'on se demande ce que c'est avant éventuellement de savoir plus précisément ce que c'est. Donc on a le texte de Tony, surtout qui est un texte c'est pas un texte théorique du coup, mais il est entre poésie, enfin c'est un texte de Tony Combes, c'est pour ceux qui le connaissent, sa marque de fabrique, et voilà, il a sa propre autonomie, il parle de tout ça. Et moi, donc, je parle d'une manière plus commentée, qui était très subjective. C'est-à-dire, les images que je fais, je voulais qu'elles soient d'abord mises en avant aussi et qu'elles soient avant mon commentaire. Parce que je les avais faites, disons qu'il y a deux choses. Je m'inspire un peu de deux choses, c'est-à-dire qu'il y avait ce guide-là que j'ai ramené là. Le guide de l'architecture contemporaine en France, qui est une espèce de petite bible de ceux qui s'intéressent à l'architecture moderne et contemporaine, et qui est en fait, il a cet intérêt de présenter beaucoup de bâtiments modernes qui semblent incroyables et sortis d'une autre époque, d'un autre temps, et qui ont disparu la plupart, ils ont déjà tous été détruits. Donc ça, il y a une valeur mémorielle dans ce livre qui est très forte. Et il a été écrit par Dominique Amouroux, Crétol et Monet. Et il y avait c'était plutôt des critiques d'architecture, et leur liberté de ton dans ce livre-là, elle est vraiment intéressante, parce qu'ils n'hésitent pas. Ils présentent des bâtiments, mais ils n'hésitent pas à les tailler en disant mais ça c'est mal construit, ce truc-là fonctionne pas du tout. Donc j'aimais beaucoup ce ton-là. Bon, je dis pas que j'écris de cette manière-là, mais bon, du coup, ça m'a un peu libéré sur la façon d'écrire de manière très subjective.
Oui, parce que t'as pas du tout sacralisé la ville, en fait, au moment où tu... Je sais plus si tu l'as dit, mais quand tu allais prendre les photos des bâtiments pour pouvoir aussi rentrer à l'intérieur, tu as rencontré beaucoup de personnes qui t'ont amené, enfin c'est aussi d'ailleurs ces paroles peut-être que tu rapportes dans ces commentaires.
Disons que oui, je faisais ce que je voulais faire, c'était aussi de rentrer, enfin de prendre en photo donc des bâtiments qui sont, si on est à Grenoble, c'est des bâtiments devant lesquels on passe tous les jours, et on, même s'ils sont assez récents, on oublie leur histoire. Et des fois on oublie un petit peu même qu'ils ont une qualité, donc j'aimais bien reprendre en photo des choses qui nous paraissent un peu sans qualité aussi, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc j'essaie de rencontrer, donc au moment de j'étais invité dans une résidence qui s'appelait Présence Barrée à l'époque à Grenoble, où je passe pendant un mois du temps à essayer de trouver des contacts de personnes dans ces lieux-là, pour visiter, voir un peu l'envers de tout ça, et essayer de retrouver qu'est-ce qui est encore aujourd'hui à l'origine des projets, et essayer d'en voir l'essence, l'âme un petit peu du bâtiment ou du projet. Et donc là, voilà, évidemment, en faisant la visite avec eux, ils me racontent toutes les anecdotes possibles quand on vit là, donc c'est ça aussi une autre image, une autre... un écart avec la réalité, ou la réalité même du projet programme à l'origine qui est vendu par l'architecte et ce qui est aujourd'hui. Donc ces écarts-là, ils sont intéressants.
Tu portes un intérêt aussi pour le travail des observatoires photographiques du paysage. D'ailleurs, tu as un livre.
Oui, j'ai ramené un livre, Séquences paysages. Et donc ça, c'était aussi quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. C'était le travail de la DATAR, qui est l'Observatoire photographique du paysage, où en fait, C'est une mesure du paysage, donc c'est une sorte de commande qui existe depuis assez longtemps. Reprendre en photo des vieilles photos qu'on peut avoir, des traces de documents qu'on peut avoir dans le lieu, et essayer de retrouver le même cadrage, même voilà. Donc quand on est photographe, on essaie de trouver la même focale pour avoir le même angle, pas de déformation ou les mêmes déformations que sur l'image d'avant, et pour justement avoir cette approche un peu scientifique de mesure du paysage. Donc moi j'aborde une partie de mes photos de cette manière-là. Dans l'idée de représenter la ville, je voulais le faire de la plus de manière possible. Donc je fais ça d'une manière assez scientifique. Après j'ai des photos un peu plus personnelles et je voulais éprouver les registres et les statuts de l'image pour représenter la ville. C'est pour ça que j'ai cette partie qui est un peu scientifique. Et là, moi je fais des commentaires, mais au tout début, j'avais vraiment envie, moi, que mes photos puissent être lues par des architectes, pas que par des architectes, mais que ça puisse être un outil. Enfin, que c'est l'idée que ces images-là servent à l'urbanisme et à des mesures.
Et juste éditorialement parlant, pour les auditeurs, auditrices, si tu peux décrire un peu voilà, le fait qu'il y ait un dos nu, qu'il y ait 5 fils, enfin, que ce soit une reliure cousue aux couleurs des anneaux, enfin, des JO. Voilà, je te laisse juste décrire un peu l'objet dans sa matérialité.
Oui, l'objet qui est conçu par Jade Hussein. Donc on avait ce grand format et oui, en effet c'est cousu et donc il a eu l'idée de reprendre les couleurs des fils. Donc on peut jouer sur voilà, c'est sur les paramètres sur lesquels on peut jouer quand on est designer. Donc il change la couleur des fils pour faire la couleur des anneaux.
À la discussion, il y avait toi, j'imagine, Guillaume Graal.
Oui, Benoît Santiard, voilà. À Building Books. C'est un travail d'équipe. Je suis designer graphique moi aussi, donc je fais des livres. Et là, c'était pas moi qui le faisais.
Et pourquoi d'ailleurs tu n'as pas choisi de prendre en charge la conception graphique?
À vrai dire, c'était quand même une envie de Jade. Il avait envie de prendre aussi part à ça. Et moi, ça me plaisait du coup qu'il y ait une réinterprétation aussi du travail que j'ai fait. Et j'avais hâte de voir quelle lecture il pouvait en avoir dans sa resélection qu'il a pu faire et dans le montage d'images. C'est quand même lui en grande partie qui fait ça, qui fait l'editing, qui refait l'editing de ce que moi j'avais déjà un petit peu édité. Et voilà, ce tir croisé était intéressant.
Et le choix de faire un livre donc relié, tu vois, imprimé, donc qui a l'air dans sa forme d'être définitif, on aurait pu imaginer d'autres formes, je sais pas, une plateforme dématérialisée, je sais pas, c'était quoi l'envie justement de
bah après,
que ce soit un format imprimé.
C'était que soit on reprend, soit on fait des choses qui seraient de l'ordre de l'observatoire du paysage, c'est-à-dire il faudrait le refaire tous les 10 ans si on veut suivre vraiment l'évolution de la ville et essayer d'avoir cette approche-là. Mais comme on disait sur le fait que ce soit des images déjà un peu vieilles, c'était de l'arrêter maintenant et d'avoir cette lecture-là. Et en fait, c'est un jalon après sur, je sais pas, il pourra... Voilà, c'est... En fait, c'est tout ce... C'est tout comme le livre là du guide de l'architecture moderne. Oui, ça fait un peu mémoire. Quoi. Bon, à un moment donné, il faut arrêter sur un livre, il s'arrête. On le regardera peut-être dans 10 ans, on se dira « Ah oui, tiens, là, ça a changé » ou « Ça pourra servir d'une autre manière ».
Tu as apporté plusieurs livres de ta bibliothèque. Est-ce que tu veux nous en parler ou de certains? Il y en a qui ont quelques anecdotes, alors je ne sais pas si tu veux les raconter.
Non, mais il y avait quand même ce livre... Il y avait ce livre qui était l'origine de mon projet, c'était Le Mur Vivant, c'est une revue d'architecture de Maurice c'était Maurice parce qu'ils sont plusieurs frères des Novarina. Donc c'était Maurice Novarina qui a fait beaucoup de bâtiments du coup pendant les JO à Grenoble là-bas et qui avait une revue d'architecture et ça me plaisait beaucoup à l'époque en étudiant le design graphique et les livres photos, c'était de me dire ah oui ben quand même il y a des architectes aussi, ils ont leur revue, ils font de l'editing et ils font des choses comme ça, ils publient des choses. Ça me plaisait. Donc de ce livre-là, je suis reparti à faire des photos qui ont déjà été faites souvent par Caro et Jolie. Donc j'avais un livre là sur les 1%, parce qu'il y avait beaucoup à Grenoble aussi à ce moment-là. Il y a eu gros travail de sculpture et d'œuvres d'art dans l'espace public qui était très intéressant.
À Daniel Gonzalez-Foster qui avait repris des lampadaires des JO pour plutôt les élever au rang de sculpture.
C'est ça. Et... ouais, je le prends en photo. En fait, moi, en baladant dans la Villeneuve, il y avait donc je prends en photo plein de choses, des bancs, et là je vois des lampadaires, et ces lampadaires sont assez particuliers. C'est des lampadaires, ils sont un quadri, on va dire. Ils ont quatre couleurs, les quatre couleurs primaires, enfin bon, plus le noir du coup. Et ils sont là dans la ville, en fait ils commencent à disparaître. Moi j'en vois plus que un à l'époque où je l'ai fait en 2012. Les lampadaires, c'est des choses qui sont amenées à disparaître et à être changées. Mais je vois que Dominique Gonzalez-Foster, à l'occasion de, je pense que c'était en 2001, à l'occasion d'une restauration du...
2004.
2004, ouais. Merci. À l'occasion de la restauration de la Maison de la Culture, elle fait 1%, et dans son 1%, en fait, elle met, parce qu'elle avait un programme de... Son travail, c'était sur le Jardin Monde, je crois. Et elle prend des éléments de... Il y a une cabine téléphonique, je crois, de Rio. Il y a une espèce de sculpture d'un dragon qui vient de Hong Kong. Et là, elle met au milieu de tout ça, elle met un lampadaire de la Villeneuve qui est juste à côté. Et je trouve ça formidable parce que elle a un geste de patrimonialisation de ça qui n'est qu'un lampadaire, mais elle le crée comme une œuvre d'art en espérant que ça dure plus qu'un lampadaire. Voilà, peut-être jusqu'à au prochain 1%.
Mais... Est-ce que tu veux dire un dernier mot avant qu'on s'arrête ?
Je pourrais parler de plein de choses sur des anecdotes, oui, il y en a.
C'est des projets que tu continues beaucoup, en photographie, de photographier la ville, les villes, les architectures.
Ouais, j'essaie là de je m'y remets un petit peu, j'essaie de recontinuer sur ça. Et là, j'essaie de faire un travail sur Ricardo Bofill. On essaie de faire avec une amie artiste, on essaie de faire un travail sur Abraxas, justement sur les espaces d'Abraxas et ces lieux-là qui sont des lieux en périphérie, qui ont une histoire pareille d'une autre époque, avec un énorme changement sociétal et social qui est vraiment intéressant à voir aujourd'hui, à questionner en termes de sociologie urbaine et tout ça, c'est vraiment ça, c'est passionnant aussi.